Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 avril, Élysée 2022, les candidats face au 7-9, c'est le retour de nos matinales spéciales avec les qualifiés du second tour à l'élection présidentielle. Ce matin donc, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, de 8h20 à 9h30, posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, vous aurez, amis auditeurs, largement la parole tout à l'heure. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, dans ce duel du second tour, Emmanuel Macron prêt à revoir sa réforme des retraites pour limiter l'âge de départ à 64 ans et non plus 65. Il l'a dit hier lors de son déplacement de campagne dans les Hauts-de-France. On voit ça en détail, Anaïs, après les autres titres.
L'Ukraine s'attend à une attaque massive et imminente dans le Donbass. Rencontre dans ce journal avec des volontaires qui aident les civils à évacuer. Une innovation thérapeutique qui suscite l'espoir dans le traitement du cancer du poumon. Et puis le concert-événement des Irlandais de Fontaines D.C. ce soir sur Inter.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, avec vous Léa.
Il a été l'un des maires de Paris les plus populaires, homme de gauche, socialiste. Il soutient Emmanuel Macron et prend la parole pour la première fois dans cette campagne. Bertrand Delanoë sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa.
France Inter. Surtout ne pas faire de faux pas dans ce match retour de la présidentielle de 2017, ne pas se laisser distancer dans ce second tour qui s'annonce serré. 12 jours de campagne en funambule pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Premier déplacement hier du président candidat et première surprise, grosse concession sur l'un des sujets clivants de son programme, la retraite à 65 ans. Au terme d'une journée dans le Nord et le Pas-de-Calais sur les terres de son adversaire Simon Le Baron, Emmanuel Macron ouvre la porte à une réforme des retraites à 64 ans.
Il doit bien se rendre à l'évidence. Ses 65 ans écrasent toute sa campagne.
C'est pas normal qu'on fasse travailler les gens plus tard. Ils partent fatigués.
Mais bien sûr, mais ça, c'est très injuste.
Au chômage ou en arrêt maladie.
On en est malade de votre réforme. Mais...
Non à la retraite à 65 ans.
Alors, en fin de journée, Emmanuel Macron jure qu'il n'est pas insensible.
J'entends l'inquiétude.
Et finit par lâcher du lest.
Je suis prêt à bouger le rapport au temps. Si on sent trop d'angoisse chez les gens, on peut pas dire le dimanche soir « je veux rassembler » et quand on va écouter des gens, dire « je reste et je ne bouge pas ».
Même son équipe n'était pas au courant. Lui explique « les grands principes ne changent pas ».
On va devoir travailler plus longtemps. On doit pouvoir aider nos retraités et mieux les valoriser. On ne doit pas augmenter les cotisations, mais avec un objectif, c'est de rééquilibrer les comptes.
Mais pour ce qui est de l'âge, il n'est pas fétichiste. En clair, il pourrait s'arrêter à 64 ans en 2027 et laisser son successeur gérer la suite. Une main tendue, peut-être pas au noyau dur mélenchoniste qui voulait la retraite à 60 ans, mais à cette gauche qui a voté utile.
Je suis ouvert à la discussion, je ne vais pas faire la fin du match. Mais je dis voilà, c'est comme ça, on doit se discuter, parler, avancer.
Emmanuel Macron sort au passage la carte référendum possible sur tous les sujets, dit-il, y compris celui-là. Preuve qu'il a vraiment besoin de cet électorat pour s'imposer le 24 avril.
Emmanuel Macron sera aujourd'hui avec des soignants de Mulhouse, puis ce soir à Strasbourg, deux villes où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Elle aussi tourne son regard vers le même électorat, Marine Le Pen, en conférence de presse aujourd'hui sur le thème de l'exercice du pouvoir. La candidate du Rassemblement National veut une profonde réforme des institutions pour inscrire la priorité nationale dans la Constitution. Quant à Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, resté sur le banc de touche avec moins de 500 000 voix d'écart. Hier soir à Lille, le siège de la Fédération communiste du Nord a été endommagé par des jeunes qui reprochent à Fabien Roussel et ses 800 000 suffrages d'avoir fait échouer la candidature insoumise. Mais Steven Gouaillet, ces militants communistes que vous avez rencontrés à Paris, assument eux leur choix.
Un cocktail pour se détendre après des mois de campagne éreintante.
On en a distribué beaucoup, on a collé beaucoup d'affiches. Et là, c'est vrai qu'on a besoin du coup de se reposer un peu.
Amado, 25 ans, et Christina, 29, militent à la jeunesse communiste. Ils ont voté Fabien Roussel dimanche et assument complètement leur choix.
Absolument. Pour moi, c'était un vote nécessaire. Il y avait pour moi un besoin d'avoir ce type d'alternative à gauche.
Aucun regret pour Amado, l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon n'était pas la solution.
On l'a déjà fait deux fois et ça ne nous a pas permis de gagner les deux fois précédentes. On voit qu'il y a quand même 800 000 personnes qui n'auraient peut-être pas voté pour un autre candidat à gauche, qui là ont voté à gauche au lieu de s'abstenir, et c'est mon cas.
800 000 voix qui auraient peut-être permis à la gauche d'être présente au deuxième tour seulement.
On pense que la gauche, cette fois-ci, n'était pas en capacité de gagner. Mais la lutte ne s'arrête pas à l'élection présidentielle. On pense qu'il est encore possible d'avoir une majorité de gauche aux élections législatives. il y a aussi de l'espoir du côté de la gauche.
Avant de parler des législatives, les deux militants ont déjà fait leur choix pour le second tour. Ce sera Emmanuel Macron, malgré tout, pour faire barrage à l'extrême droite.
Reportage de Steven Goyer à Paris.
En Ukraine, il est 7h05, le port de Mariupol est déjà sous le contrôle des séparatistes russes.
C'est ce qu'ils ont annoncé hier et les Ukrainiens s'attendent à perdre la ville de façon imminente. Les munitions s'épuisent, nos forces ne peuvent pas libérer Mariupol, dit un conseiller du président Zelensky, alors que les Britanniques essaient de vérifier les soupçons d'utilisation d'armes chimiques russes à Mariupol. Mais ce qui se dessine, c'est aussi une offensive majeure dans le Donbass. Des chars prépositionnés avec soutien logistique d'infanterie et d'hélicoptères. La bataille va durer plusieurs jours. Nos villes seront complètement détruites, dit le gouverneur de Lugansk. Il faut donc continuer à évacuer. Nos envoyés spéciaux, Marwa Man et Gilles Gallinaro, ont suivi des volontaires à Kramatorsk qui aident les plus vulnérables à partir.
Depuis l'appel des autorités à évacuer la ville, Alexandre, un jeune volontaire, porte secours aux plus fragiles.
Nous aidons les gens à évacuer vers Dnipro. Ce sont surtout des personnes très âgées qui ont du mal à se déplacer. Et nos bus sont gratuits.
Avec d'autres bénévoles, ils ont affrété un vieux bus jaune qui sillonne la ville à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas fuir.
Oui, c'est ma mère. Elle n'a que moi et je n'ai qu'elle.
Olha habite avec sa mère au premier étage d'un immeuble d'un autre âge. Alité et handicapée, il faut plusieurs paires de bras pour porter la vieille dame jusqu'au bus.
On doit à tout prix l'évacuer, la sortir de la mort et de la guerre.
Des familles ont également pris place dans ce bus. Elles n'ont pas les moyens de payer le trajet. Ira voyage avec ses deux adolescents et sa fille de 8 ans. Elle a les yeux rougis et dans le vide.
C'est dur de partir, mais il faut vraiment sauver les enfants.
Vous avez laissé qui derrière vous ?
Mon mari, car il est en âge de combattre. C'est pour ça qu'il reste ici.
Tous fuient la peur au ventre pour ne pas se retrouver piégés sous le feu de l'armée russe. Kramatorsk, Gilles Gallinaro, Marwaman, France Inter.
Il ne faut pas se faire d'illusions, selon le chancelier autrichien qui était à Moscou hier. Vladimir Poutine est entré massivement dans une logique de guerre, dit-il, et il veut enregistrer un succès militaire rapide. La guerre en Ukraine pourrait mener à une désintégration de l'économie mondiale. L'alarme de l'Organisation mondiale du commerce, l'Europe, principale destination des exportations russes et ukrainiennes, en subira l'essentiel de l'impact. Enfin, la France expulse 6 espions russes. Ils étaient surveillés depuis plusieurs mois. L'un d'eux aurait pris contact avec un Français pour lui acheter des renseignements. On ignore s'il s'agit d'espionnage commercial, militaire ou politique. Aux États-Unis, on les appelle les ghost guns, les armes fantômes, celles qui sont impossibles à tracer car elles sont fabriquées chez soi en kit et c'est pour cela qu'elles sont très prisées des criminels. Joe Biden a décidé hier de les interdire. Pour signer son décret, le président américain avait réuni autour de lui, Sébastien Paour, des proches de victimes d'armes à feu.
Un pistolet en morceaux est posé sur une table à côté de lui et Joe Biden précise tout de suite qu'une arme commandée sur Internet et qui arrive en kit à la maison reste une arme. N'importe qui, un criminel, un terroriste, peut passer d'un pistolet en kit à un pistolet tout court en une demi-heure. Ces armes n'ont pas de numéro de série et peuvent donc difficilement être rapprochées de leur propriétaire. 20 000 armes de ce type signalées rien que l'an dernier aux États-Unis, un chiffre multiplié par 10 en 5 ans, moins d'1% tracé. Alors le ministère de la Justice oblige dorénavant les fabricants à placer un numéro de série sur ces armes fantômes et les revendeurs, dont certains sont des marchands de mort, type Biden, devront garder leur registre tant qu'ils sont en activité. Cela va vous étonner, mais je soutiens le deuxième amendement qui autorise de posséder une arme, assure encore le président démocrate, qui précise que le texte ne dit pas que les citoyens américains peuvent avoir n'importe quelle arme. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et en 2021, 45 000 personnes sont mortes par arme à feu aux États-Unis.
Il est 7h10, l'espoir d'un traitement innovant contre le cancer du poumon.
Cancer le plus meurtrier en France et ce traitement en test actuellement améliore la survie et réduit le risque de récidive. Il pourrait concerner un tiers des malades, ceux qui ont un cancer sans métastase. 15 000 patients concernés à Norrenstein.
Actuellement, les cancers du poumon non métastatiques localisés et opérables sont traités d'abord par chirurgie, suivis d'une chimiothérapie. Un traitement dit curatif, mais éprouvant et pas forcément efficace à long terme. Depuis 5 ans, le professeur Nicolas Girard et ses équipes de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris étudient un traitement avant la chirurgie. 3 cures d'une combinaison d'immunothérapie et de chimiothérapie. 2 mois de traitement qui changent complètement la donne.
C'est des patients qui sont vivants à long terme. Et ça, ça change beaucoup par rapport à la chimiothérapie seule. La moitié des patients étaient en rechute, souvent métastatique, avec peu d'espoir.
Le risque de récidive et de décès diminue de 40%. Pour un quart des patients, il n'y a même plus de cellules cancéreuses dans ce qui est enlevé lors de la chirurgie. Et bénéfice inattendu supplémentaire, les effets secondaires sont aussi diminués.
Parce que l'immunothérapie, elle est délivrée sur un temps très court. Et on a même moins de complications chirurgicales parce qu'on a aussi une diminution de la taille des tumeurs. Et donc, ça facilite le geste chirurgical encore plus qu'avec la chimiothérapie.
Ce nouveau protocole a été accepté il y a 5 semaines aux États-Unis. En France, il est encore au stade de l'étude, mais l'oncologue Nicolas Girard espère pouvoir en faire bientôt bénéficier l'ensemble des malades concernés au titre de l'accès précoce.
Toujours plus de malades du Covid à l'hôpital et en soins intensifs, même si les contaminations reculent. En Chine, sur fond de flambées et de mesures drastiques, voire inhumaines, les États-Unis demandent aux employés du consulat de Shanghai de quitter la ville. Nous y serons dans le journal de 7h30. Le verdict attendu ce soir pour Nicolas Zepeda à Besançon, jugé depuis 2 semaines pour l'assassinat de sa petite amie. L'avocat général a requis hier la réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, parlez-vous l'irlandais, Skintifia, ça voudrait dire la damnation du cerf, expression irlandaise qui illustre le nouvel album du groupe de rock des Fontaines d'Issy. En concert ce soir sur France Inter, ils ont créé l'événement hier soir à l'Olympia devant une salle comble et devant Mathieu Culeron.
Complet depuis des mois, le concert des Fontaines d'Issy a tenu toutes ses promesses. Le groupe irlandais a donné l'un de ses meilleurs concerts hier soir à l'Olympia, avant la sortie de leur 3e album la semaine prochaine. Carlos O'Connell, le guitariste, se souviendra longtemps de cette performance. Quand on a joué notre dernier concert au Bataclan à Paris, on nous a dit la prochaine étape c'est l'Olympia et c'est incroyable. On est devenu une famille depuis 7 ou 8 ans, on a fait ce dernier album pendant le confinement et pour nous c'est le disque le plus abouti qu'on ait jamais fait. Brian Chatton, chanteur habité qui, adolescent, devait réciter des poèmes à son père pour pouvoir aller au pub, est un leader fragile et charismatique. À la sortie du concert, les fans n'en demandaient pas tant.
Ça a surpassé mes attentes, c'était trop bien. C'est un de mes meilleurs concerts honnêtement, des 10 années passées. Magnifique.
Moi, j'ai trouvé que c'était sauvage, violent.
C'était magique, les mecs sur scène, tout était parfait. Genre, j'ai pris une claque, j'ai adoré.
Fontaines d'Issy à retrouver ce soir en concert au Bataclan. Concert retransmis sur France Inter en direct à partir de 21h.
Et ben voilà, on écoutera la radio. Oui. Hein. Je précise que le nouvel
avec
album
plaisir.
Sort le 22 avril.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, c'est le retour du feuilleton de la France, 20e épisode, à la rencontre de citoyens tentés par le vote Rassemblement National.